Notre collection Présence du passé reçoit aujourd'hui Sébastien Ledoux, un historien, auteur d'un essai qui stimule et bouscule La nation en récit aux éditions Belin. Alors pour vous interroger, vous avez face à vous peut-être le dernier spécimen encore en activité ayant eu à connaître des leçons de morale. C'était à la fin des années 60, 1960 de l'autre siècle, rue Victor Cousin à Paris. Monsieur Merlin, il était né, d'après mes calculs, en 1907, en classe de 8e, on disait à l'époque, fortifiait notre patriotisme. En particulier avec l'histoire d'un gamin de nos âges, nous ne pouvions que nous identifier, pendant la guerre de 1870, qui, sur un arbre perché, faisait le guet pour nos troupes avant que d'être abattu par un Uhlan. Et je dois vous dire que c'était beau comme l'antique et que les chères têtes blondes tressaillaient. C'était le temps de la nation pour tous et de tous pour la nation. Fourrez-vous bien cela dans le crâne, tel était le mouvement unanime du récit national. Un demi-siècle et plus après, le paysage mental et politique est devenu kaléidoscopique, histoire et morale à la carte. L'inclusion obligatoire, fourrez-vous dans le crâne, laisse place, ou plutôt se voit opposer l'exclusion, la déconstruction, extirper tel ou tel épisode raciste, colonialiste, misogyne de la conscience nationale et de l'esprit public. Et votre livre analyse les étapes et les signaux et les circonstances d'une telle mutation du récit national et de sa réception. Et je voudrais que nous commencions par ce qui m'apparaît comme le point d'orgue de votre démonstration, le sursaut à la fois symptomatique et manqué de peu de la maison l'histoire de France, voulu par Nicolas Sarkozy et dans une moindre mesure par son ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, il y a une douzaine d'années. Ça avait été promis dans la campagne de 2007 et c'est devenu effectif, ça a été créé avant que de disparaître en 2010. En quoi cet épisode réactionnaire au sens propre de la Maison d'Histoire de France permet-il de mettre le doigt là où ça fait mal, Sébastien Ledoux?
Parce qu'en fait, vous êtes dans une, avec ce projet de Maison d'Histoire de France, effectivement, dans une offensive narrative, hein, ce que j'ai appelé dans le livre une offensive narrative menée par Nicolas Sarkozy et ses conseillers, hein, évidemment, Patrick Buisson et Henri Guénaud, pour ne pas les nommer. Et on est dans cette offensive narrative, je dirais, post-Chirac, post-devoir de mémoire, quelque part, hein, pour faire le lien avec mon ouvrage précédent, de fin de ce qu'il va appeler, lui, de la repentance. Et donc, le terme est devenu un élément de langage de tout discours sur le passé, au niveau du politique, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Et on l'a entendu encore récemment, justement, par rapport à Emmanuel Macron et sur le Rwanda, pour dire que, justement, ce n'était pas de la repentance. Hein, donc, mais en tout cas, c'est lui qui a instauré, au cœur du débat politique, dans le rapport au passé national, avec ce terme-là de repentance, une réaction. Une réaction politique pour ne plus, et je reprends la terminologie de Nicolas Sarkozy, ne plus avoir honte de l'histoire de France, mais au contraire l'aimer, en être fier, et donc construire ce qui lui paraissait absent finalement du récit, enfin non seulement du récit national, mais de l'État français, un lieu qui concentrerait donc justement une intrigue narrative de l'histoire de France, mais autour des moments, alors je vais essayer de ne pas le caricaturer, hein, mais en tout cas au départ c'était un peu quand même autour des moments glorieux, des moments d'enchantement. Il cite, Pierre Nora est régulièrement cité, hein, à la fois dans les discours de Sarkozy à ce moment-là et dans les rapports qui sont rédigés, parce qu'il y a plusieurs rapports sur 2 ans, qui sont rédigés pour effectivement faire et construire cette maison de l'histoire de France.
Pierre Nora est cité et au dernier moment, il freine dans une tribune au Monde et c'est Jean-Pierre Rioux qui se trouve bien seul, l'ancien inspecteur général, dans cette galère, car il faut bien l'appeler comme cela. Ce qui est passionnant, c'est de voir comment tout ça procède d'une sorte de sauce figée. Il faut à la fois que l'histoire soit écrite et figée. On retrouve presque le vers de Baudelaire, « Je hais le mouvement qui déplace les lignes ». Mais il faut surtout que le citoyen soit passif, et vous le dites en deux mots qui résument tout, « héritier et débiteur ». Et là, on retrouve la phrase fameuse de Renan sur le « lait », le « g » ne se prononce pas, « l-e-g-s », la possession en commun d'un riche lait de souvenirs. Mais comme si tout ça cadenassait.
Alors là, on retrouve, effectivement, puisque vous citez Renan, on retrouve peut-être c'est une hypothèse, une spécificité, pour le coup, française, de vouloir fixer, soit dans un récit, je pense au manuel scolaire La Vis, soit dans un récit scolaire, soit dans un lieu, de fixer l'histoire française. Et ce que j'essaie d'expliquer dans ce livre, c'est que effectivement la Troisième République, héritière elle-même en fait des historiens libéraux, et en partie de Jules Michelet, tout ce travail historiographique qui s'est fait sur l'histoire de France au XIXe siècle, la Troisième République met en avant ce récit national. Et donc c'est pour ça que je trouve que c'est important de revenir là-dessus quand vous dites figé, vraiment dans l'idée qu'il ce récit et ce partage de récits en termes de passif, effectivement de passivité, il s'agit de recevoir et de partager ce récit-là, fonde à la fois la communauté nationale qui permet l'unité de la nation. Et qui permet, et moi c'est ça qui m'a intéressé le plus en faisant ce livre, la perpétuation de la nation. C'est-à-dire qu'il y a l'idée, dès la Troisième République, qu'en fait la transmission de ce récit national va assurer la perpétuation de la nation républicaine, parce qu'elle est jeune cette République, au début on est à la fin, donc dans les années 1880-1890, elle est toute jeune, on l'a vu précédemment qu'on a eu une première République qui s'est interrompue, une deuxième qui s'est interrompue, donc on a vraiment des élites politiques républicaines, là, évidemment autour de Lavis, mais d'autres, Jules Ferry, qui sont en train de concevoir comment nationaliser, en fait, les citoyens autour d'un passé commun.
Mais quand vous dites perpétuation de la nation, je ne peux pas m'empêcher de penser à certains éleveurs de chiens, perpétuation de la race. Or, c'est pas du tout la même chose, et en même temps, il y a confusion. Et j'aime beaucoup une sorte d'intertitre dans votre livre que je voudrais juste lire. Le récit scolaire national colonial, clé de voûte narrative du paradoxe républicain. Je le répète, le récit scolaire national colonial, clé de voûte narrative du paradoxe républicain. Et là, on est au cœur de toutes les contradictions.
On est au cœur de toutes les contradictions, et je pense que vraiment, il faut clarifier cette situation. Parce que vous connaissez bien les débats autour de ça depuis des années, des années, des années. On a effectivement un paradoxe politique avec cette république coloniale, et en même temps, ce que je dis, c'est que il y a un paradoxe, mais en fait, le récit national qui a été porté a permis de dépasser ce paradoxe. C'est pour ça que je parle de clé de voûte. C'est-à-dire qu'effectivement, ça a tenu, ça a permis de tenir ce paradoxe-là. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre avec ce récit national scolaire porté par la République, mais effectivement, qu'il met en exergue la spécificité, en tout cas, imaginez, là pour le coup, moi je ne reprends pas cette spécificité évidemment à mon compte, mais imaginez, une spécificité imaginée qui est la France a un rôle particulier pour accomplir sur la Terre, en fait, dans le monde entier, il y a cette dimension universaliste qui est fondamentale, pour accomplir le progrès du genre humain. Je reprends les termes de l'époque. Le progrès du genre humain, plus personne ne parle comme ça aujourd'hui. Mais les termes de l'époque, c'est bien cela. La France a un rôle particulier dans le monde pour accomplir le genre humain. Et donc, évidemment, la colonisation entre totalement dans cette intrigue narrative-là. Et qui va s'effondrer ensuite dans les années 60-70. Mais en tout cas, pendant des années, effectivement, la République coloniale tient d'un point de vue narratif, hein, d'un point de vue de l'administration, de l'armée, etc., c'est autre chose. Mais d'un point de vue d'une projection de la nation, d'une projection de la nation sur elle-même et sur son passé, ce récit-là, effectivement, finalement n'a rien de contradictoire. Au contraire, il est tout à fait cohérent avec l'intrigue qui s'est dessinée à la fin du 19e siècle.
Il continue jusqu'à la fin du général de Gaulle, je trouve, parce que quand vous écoutez à la phonothèque de l'INA les discours que prononçait le général de Gaulle en province, car il se rendait très souvent, on appelait ça la province, des petites villes, Cognac, Rethel, etc., et il exposait sa politique, les rapports Est-Ouest, etc. Et puis à la fin, venaient toujours « et les autres », c'est-à-dire ce qu'on appelait le tiers-monde. Et il disait « nous allons les tirer de la misère et de l'ignorance ». Mais vraiment, comme ça, c'était archi-post-colonial. Il y a quelque chose qui est suggéré dans votre livre, parce que cette France, c'est pas nos ancêtres les Gaulois, on cherche quelque chose de plus intéressant. Et on tombe souvent sur la langue. Et je trouve que la fin du récit national, ou en tout cas sa façon d'être bousculée, coïncide avec l'effondrement du français comme langue universelle. L'effondrement constaté, parce que ça faisait longtemps que ça existait. Quand vous regardez, il y a exactement 55 ans, en 1964, au moment d'ailleurs où paraissait le coup d'État permanent de Mitterrand, paraissait le « Parlez-vous franglais » des Tiambles. Et c'est à ce moment-là que tout à coup, les gens se rendent compte. Et cette façon de s'agripper à la langue pour ne pas avoir l'impression de s'agripper à la race, parce que ça ne veut strictement rien dire, et en plus la race n'existe pas, ça fait partie d'un syndrome très français.
Oui, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que effectivement, on est dans une tradition sur plusieurs siècles depuis le 18e, en gros, hein, on va résumer, mais de cette langue qui veut ou qui cherche ou à s'universaliser et qui va en partie le faire. Et dans cette perspective-là, la diffusion de la langue française fait partie tout à fait complètement et intégralement de cette intrigue narrative qui est « La France apporte le progrès du genre humain ». Et donc par la langue, notamment. Par la langue, notamment. Et regarder toutes les politiques pour éteindre, mépriser, discréditer ce qu'on va appeler des dialectes, qui sont pourtant des langues en tant que telles, des parties soit de province, soit impériale de la France.
Et c'est inscrit dans la Constitution, le français, la langue. Et on le voit encore aujourd'hui, à la fureur de son allié Bayrou, le pouvoir macronien a donné un soufflet aux langues régionales. Et donc, cette tension perdure. Dans votre livre, quand vous racontez, quand vous analysez l'héroïsation à tous les étages, je suis très surpris par quelque chose de sépulcral et de macabre. Vous l'écrivez, l'endettement partagé par les vivants envers les morts. Alors, c'est quand même pas le cri de guerre du général franquiste de 1936, à bas l'intelligence et vive la mort, mais la mort est là partout, et ce récit national, c'est un peu l'ossuaire et les catacombes, je trouve.
Alors, oui, du côté du XXe siècle, je dirais, un peu moins quand même dans le premier récit de type, quand je dis XXe siècle, je pense tout de suite à la Première Guerre mondiale et donc à cette refondation du récit national autour de l'hommage aux morts, mais aux morts héros, évidemment, à cette époque-là.
Et un peu mais moins. Mais avant, le chevalier Bayard, Jeanne d'Arc, enfin, c'est un tas de suppliciés.
Oui, et en même temps, si j'indique ça, c'est bien pour préciser que on est encore, il me semble, dans cette idée que on doit évidemment évoquer la mort, mais en même temps toujours pour parler de la victoire, de la vie sur la mort. Je pense que c'est aussi cette dialectique-là, hein, c'est-à-dire que les morts sont extrêmement présents, mais qu'ont-ils fait Ils ont permis d'assurer la continuité de la nation française. Et c'est dans ce ressort narratif-là, il me semble, que s'ancrer le récit national français. Alors là, il faudrait faire du comparatif pour voir dans les autres pays comment les choses se passent. Mais en tout cas, ce qui est frappant, et encore autour de Napoléon récemment, c'est cette idée, effectivement, de victoire militaire qui assure justement la continuité du pays et dont on est débiteur, forcément. Hein. Donc, nous, jeunes Français, là, je me situe au début de la Troisième République, mais jusqu'aux années 60, et jusqu'à la fin des années 60, donc on est débiteur de ces conquêtes, de ces victoires, qui sont des victoires sur l'ennemi, bien sûr, mais évidemment sur la mort et le risque de la disparition. Parce que pour les États-nations, ce qui est fondamental, c'est quand même d'assurer une pérennité.
Alors, vous ne le dites pas, mais moi, peut-être que c'est de la surinterprétation, mais en vous lisant, je me disais, c'est incroyable comme tout cela est inconsciemment théologique. Nous avons une sorte de théologie laïque. Là, on vient de le voir, mort, transfiguration, rédemption, et surtout les débats byzantins à propos de la rafle du Veldiv et de la France sous l'occupation, où j'ai entendu un jour Robert Badinter parler comme un jésuite, enfin, c'est comme la nature divine et humaine du Christ, c'était la France, mais c'était pas la République, donc c'était pas la France, donc la France n'est pas responsable de la rafle du Veldiv, et quand Jacques Chirac fait son discours de 95, il se trouve encore des gens, Philippe Séguin en tête, mais également à gauche, Badinter et autres, pour dire non. Et je trouve que ça ressemble à de la théologie.
Alors moi, je pense qu'il y a une survivance, effectivement, d'interprétation de l'ordre du sacré, presque, sur ces entités politiques-là, jusqu'à nos jours. Ça, c'est très clair. Il y a des éléments religieux. Enfin, je pense tout de suite, parce que ça m'intéresse, enfin, c'est une question qui m'intéresse, à la mine de silence comme rite.
Bien sûr.
Et là, on est dans une survivance aussi d'éléments religieux, dans des sociétés dites laïques. Et en même temps, le transfert, il y a du transfert de sacralité, évidemment autour de la question du récit national, et ce transfert, il est l'une des clés pour moi des débats, voire des polémiques jusqu'à aujourd'hui de cette question du récit national, parce que on touche là à des choses beaucoup plus profondes, qui sont l'interprétation du temps. De notre rapport au temps passé, présent, avenir, futur, de la question donc de la perpétuation, évidemment, d'une entité collective, mais aussi de soi-même, finalement. Enfin, à écouter Zemmour, c'est quand même ça qui l'agite aussi beaucoup, hein. C'est-à-dire, est-ce que je vais disparaître ou pas? Est-ce que ce en quoi je crois va disparaître ou pas? Donc, pour moi, c'est très, très présent dans...
À l'infini que le croûte et temps également.
Complètement, complètement. Donc, dans cette angoisse existentielle, finalement, de finitude, la finitude. Et parce que ce que je dis un petit peu rapidement dans l'introduction, et donc en faisant référence au grand historien allemand Reinhard Koselleck, c'est que on a une interprétation extrêmement religieuse jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, pour faire rapide, hein, pour faire vite, de tous les événements historiques, de notre rapport au temps, les événements historiques étant considérés comme l'intention divine. Hein, donc on est dans cette lecture-là, dans cette lecture très religieuse, que ce qui se passe à la fois dans notre vie quotidienne, mais aussi dans les grands événements, et finalement l'œuvre de Dieu. Et puis, on passe à une interprétation autre au XIXe siècle, qui est prise en main justement par les historiens, qui est que finalement, c'est l'histoire le moteur du temps. Hein, et donc, c'est l'histoire qui nous fait avancer. Et donc là, il y a cette ouverture au progrès, qui est évidemment troublée depuis maintenant 40 ans, donc depuis les années 70, hein, cette croyance au progrès de l'histoire, justement, c'était ça les termes. Et là, ces États-nations doivent créer une autre intrigue, finalement, que celle de Dieu, de cette création divine qui, finalement, nous expliquerait, de par sa volonté, les événements qui arrivent. Et le récit national, c'est cette création-là.
C'est ça. Mais c'est une création presque millefeuille, et prenons, vous en parlez, l'irruption du tragique avec les attentats de 2015 en France. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? Une volonté d'excommunication, presque, avec la fameuse déchéance de nationalité pour les binationaux nés français qui doit être inscrite dans la Constitution. Cette folie politique a là aussi presque des relents religieux.
Enfin, peut-être, ou simplement humain, peut-être, finalement.
Ah oui, la création du bouc émissaire.
Oui, tout à fait. Bon, c'est un sociologue américain, Randall Collins, qui a créé cette notion de moment d'hystérie post-attentat. Hein. Donc lui, il l'avait remarqué après les attentats de 2001 aux États-Unis. Moment d'hystérie qu'il définit comme un moment où chacun doit manifester son appartenance à la nation, manifester son patriotisme, et celui qui ne fait pas allégeance justement à ce patriotisme ou à cet attachement à la nation est perçu comme un ennemi. Et on a effectivement cette vision de l'ennemi irréductible et toute cette suspicion dont on n'est pas sorti. Hein.
Non.
La réaction du ministre de l'Éducation nationale au lendemain de l'assassinat de Samuel Paty. Des complicités, hein, je le cite, hein, des complicités au sein de l'université de ces attentats terroristes ou de ces terroristes autour de la question et de la figure de l'islamo-gauchisme, on est en plein là-dedans. Donc là, effectivement, après 2015, puisque moi j'ai étudié aussi le monde scolaire face aux attentats de 2015, il y a un raté considérable autour de ce projet de la déchéance de la nationalité. Parce qu'il y avait quelque chose à faire et à construire justement autour d'une commune émotion, j'ai enquêté moi dans différentes écoles de la région parisienne, il y a une réaction extrêmement différente des élèves d'origine populaire, de classe populaire et notamment musulmans entre janvier et novembre 2015. Et novembre 2015, il y a une commune émotion, indignation autour de ce qui s'est passé. Et là, le politique recrée du « eux et nous ».
C'est ça. Mais en quoi cette hystérie s'articule-t-elle avec le récit national, ou est-ce que ce récit national est mis entre parenthèses et suspendu ?
Alors, il n'est pas du tout suspendu. Au contraire, il est relancé, je dirais, d'une manière traditionnelle. C'est ce que je mets dans l'avant-dernier chapitre, au niveau des attentats, depuis 2015. Le récit national, je dirais, un peu plus traditionnel, et moi, je l'associe à une culture de guerre, ce que j'appelle une culture de guerre, il est complètement relancé autour des héros morts pour la France. De la figure des héros morts pour la France. Et c'est vrai que, bon, on l'a déjà signalé, donc moi je n'invente rien, mais de présenter le soir même, donc on est avec l'allocution télévisée de François Hollande, le soir même des attentats de Charlie Hebdo, des journalistes comme des héros morts pour la France, quand même un peu étrange, vu les convictions politiques de ces journalistes-là, quand même. Mais c'est le ressort qui est déclenché le soir même. Et qui est là jusqu'à nos jours, hein, en fait.
Mais oui, jusqu'à nos jours, le panégyrique prononcé par le président Macron d'Arnaud Beltrame après l'attentat de Trèbes à l'est de Carcassonne en 2018 s'inscrit totalement dans cette héroïsation presque hystérique, hélas. Macron, c'est compliqué parce que c'est le mariage de la carpe et du lapin. La carpe morasse, avec les 43 qui ont fait la France, etc. Et puis le lapin, juste une pincée de riqueur. Il faut savoir reconnaître ses torts. Et c'est très habile, mais c'est le pâté d'alouette, un cheval de morasse et une alouette de riqueur.
Oui, je trouve qu'effectivement, il le considère certainement cela comme un subtil mélange de différents ingrédients narratifs. Et en même temps, le plus frappant reste, en tout cas pour moi, le plus frappant reste ses déclarations directement issues des livres de Zemmour, hein, aussi, ses déclarations autour du vide. Du vide politique qu'aurait laissé la mort de Louis XVI pendant la Révolution française. Et qu'on n'en serait jamais finalement, à part Napoléon, De Gaulle et donc le retour de ce genre de figure, la France ne se serait jamais finalement remise de ce vide politique-là. Alors je suis extrêmement frappé par ce genre des déclarations qu'il a pu faire dans des entretiens, puisqu'on est en République. Il me semble qu'on est en République. Et que donc, on est vraiment à l'inverse, pour moi, d'un récit national républicain que j'appelle de mes voeux, mais je ne désespère pas, mais avec effectivement cette touche ricœurienne, puisque, bon, on l'a dit, on l'a redit, voilà, il était assistant de Ricœur pendant la rédaction du livre Mémoire, Histoire, Oubli, paru en 2000, mais évidemment, alors avec des usages tout à fait stratégiques de cette perspective ricœurienne autour du parcours de reconnaissance et dont des reconnaissances de crimes commis par la France, et on en a vu encore, on en a eu un aperçu avec le discours à Kigali récemment d'Emmanuel Macron, qui était, moi je trouve effectivement très à la fois très élaboré, mais qui ne manquait pas de contradictions et de limites par rapport à ce qui s'est passé. Enfin, on y aurait beaucoup de choses à dire, je ne sais pas si ce n'est pas l'objet de l'émission.
Non, il y aurait beaucoup de choses à dire aussi. Vous avez cité par deux fois le nom de Zemmour, mais à lire votre livre, une sorte d'archipel apparaît avec un homme de 2 ans plus jeune, il est né en 1960, Zemmour est de 58, Dimitri Casali par exemple, que vous citez. Nous n'avons pas le temps de parler de cela, mais effectivement, une reconquista plus monarchique et monarchiste que républicaine a lieu sous nos yeux. Bon, mais quand vous parliez d'histoire républicaine, j'ai l'impression que pour vous, l'histoire, ce n'est pas la sauce figée, c'est une dynamique à l'œuvre. Et c'est une co-construction qui ne doit pas venir du haut. Et il faut plutôt la bâtir que la polir. En gros, c'est ce que vous voulez dire. Et j'aimerais citer juste cette phrase, page 297. « Cette construction historique collective des biens communs, toujours inachevée, toujours à accomplir collectivement. » Vous arrivez à mettre collectif et collectivement. C'est ça, la République.
C'est ça, la République. C'est ce qui me semble au fondement de la République. Et c'est pour ça que j'intitule ça « Recommencer ?», parce qu'il me semble que, quelque part, finalement, le récit national républicain n'a jamais existé. C'est pour ça que il me semble qu'il faut plutôt commencer que recommencer quelque chose. Commençons à établir un récit national autour des biens communs inachevés. Ce qu'il me semble le plus important est de concevoir effectivement l'histoire non pas comme un patrimoine à sauvegarder, non pas comme une dette dans le sens de réparation. C'était mon dernier chapitre, où on passerait notre temps à réparer. Je pense qu'il y a certaines limites à cette intrigue narrative-là, qui est une intrigue aussi depuis une vingtaine, une trentaine d'années, autour de la question des réparations. Je pense qu'il y a certaines limites. Et je trouve que l'essentiel de l'intrigue républicaine, effectivement, c'est autour de la question des constructions qui ont eu lieu de par le passé, qui pourraient nous inspirer, qui sont inachevées, et dont il faut effectivement reprendre un petit peu le flambeau reprendre le flambeau pour les faire advenir, mais pas dans un accomplissement justement qui serait un accomplissement parfait. Non, ça sera toujours inaccompli. Il y aura toujours de l'inaccompli dans ces conquêtes de biens communs. Mais faisons notre part, en fait. C'est un petit peu ça.
Et je voudrais terminer en distrayant de votre livre deux citations. Si on était dans une leçon de morale d'une école de garçons dans les années 60, je les écrirais au tableau et ça viendrait terminer cet entretien. La première citation, elle est assez connue, mais je la trouve extraordinaire, de Lucien Febvre. « L'histoire qui sert est une histoire serve. » Et la deuxième, plus récente, que vous avez tirée d'un livre d'Arlette Farge, il n'existe pas de récit national, il existe des récits d'une nation. Et là, nous sommes au cœur de la conversation que nous venons d'avoir. Merci beaucoup, Sébastien Ledoux.
Merci.